BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de BFM Crypto, le club. On va parler d'une grande étape pour Bitstack dans un instant. On va parler de réglementation américaine qui ouvre de plus en plus le secteur. On a déjà commencé à le dire hier. On va parler aussi de criminalité. Et lui, Alexandre Defroissart, va nous donner les vrais chiffres des cryptos dans la criminalité. Mes invités aujourd'hui, Louis-Alexandre, donc gérant associé chez Montaigne Conseil et Patrimoine. Bonjour à Louis-Alexandre, ravie de vous retrouver.
Oui, bonjour Sandra.
Dans cette émission, Nathalie Janson nous rejoint également. Économiste, professeur à la Neoma Business School et Alexandre Roubaud, fondateur et CEO de Bitstack. Bonjour à tous les trois, ravi de vous avoir sur ce plateau. Vous continuez à nous écrire, à nous poser vos questions, quelles qu'elles soient, sur les cryptos. Vous savez, on y répond jeudi entre 15h et 15h30. Le club BFM Crypto, c'est parti. Une grande étape pour Bitstack. On a commencé, Alexandre Roubaud, à le dire la semaine dernière, on parlait un petit peu la semaine dernière avec Alexandra Stachchenko. Vous nous rappelez de quoi il s'agit ?
D'abord un mot, effectivement, sur l'engouement de l'annonce qu'on a effectuée, une campagne de financement auprès de notre communauté, avec plus de 25 000 personnes qui ont voulu investir au capital de Bitstack.
Vous avez fait entrer des gens au capital.
Voilà, qui est un record historique. Sur la plateforme Crowdcube, qui est la plus grosse plateforme européenne de financement d'entreprises non cotées, avec plus de 26 millions d'euros d'investissement, d'intention d'investissement, 10 fois plus que notre objectif initial de 2 millions de dollars, qui est d'ailleurs aussi plus que ce qu'on comptait faire dès l'ouverture du lancement de la campagne.
Ouais.
D'ailleurs, il faut aussi noter que Crowdcube, cette plateforme, est une plateforme qui a fait des opérations d'entreprises comme Conto, Revolut et Monzo. Et donc, on ne pouvait pas être plus heureux de voir tout l'engouement que cette campagne a pu susciter, puisque notre objectif, c'est de transformer nos utilisateurs en vrais ambassadeurs de la marque.
Donc, possibilité de devenir actionnaire de l'entreprise. Il y a différents paliers, différentes possibilités d'y entrer.
C'est ça. Effectivement, nous, le but, c'était, encore une fois, que nos utilisateurs puissent être actionnaires et donc ambassadeurs de la marque. L'investissement démarrait à partir de 10 euros. Mm-hmm. Donc, toujours, comme on aime bien le faire chez Bitstack, très accessible. Aujourd'hui, ce matin, à 10h, on a enfin permis à ces 25 000 personnes qui avaient montré un intérêt d'investir avec un objectif initial de 2 millions de dollars qu'on a atteint en moins d'une heure. Mm-hmm. Jusqu'à 11h, on avait déjà dépassé les 2 millions de dollars. Au moment où je vous parle, on est déjà à plus de 3 millions d'euros avec plus de 6 000 participants. Et donc, je suis très heureux d'annoncer qu'on est la plus grosse opération jamais réalisée sur la plateforme Crowdcube, devant d'ailleurs d'autres entreprises formidables qui avaient pu faire aussi ces opérations-là, comme Vestiaire Collectif, Gringot ou encore Finari.
On va atteindre un record européen, c'est ce que vous nous disiez.
C'est ça, en termes de nombre de participants, on est déjà sur un record, sur la plus grosse opération réalisée dans l'Union européenne.
Ouais.
Donc on est très heureux de pouvoir l'annoncer. Puis c'est aligné avec notre mission de démocratiser le Bitcoin, puisque finalement ce que cela veut dire, c'est que c'est plus large que juste une opération de financement. Ça démontre un réel intérêt des Européens avec Bitcoin comme solution d'épargne, comme outil d'épargne, un intérêt des Européens d'investir dans des entreprises de ce secteur-là, et aussi un soutien inconditionnel de nos utilisateurs sur Bitstack comme leader européen.
C'est une vraie étape. Bitstack a été créé il y a quoi, 4 ans ?
C'est ça, un peu plus de 4 ans.
Un peu plus de 4 ans, effectivement, avec cette ambition que le Bitcoin allait devenir un des piliers de l'épargne, finalement, des Européens. Ça va dans cette démarche-là. Est-ce que, pour le moment, l'adoption remplit les promesses ou les espoirs que vous aviez sur le Bitcoin ?
Absolument. On l'a annoncé pas plus tard que décembre dernier, lorsqu'on a annoncé notre levée de fonds, alors là, institutionnelle de 15 millions de dollars. Bitstack, c'est déjà plus de 300 000 Français qui ont investi qui ont épargné plus de 300 millions d'euros en Bitcoin. On a une croissance fulgurante. Depuis début d'année 2026, on a aussi annoncé notre expansion européenne avec déjà plus, donc je peux le dire, 10 000 personnes hors de la France qui ont pu commencer à épargner en Bitcoin sur Bitstack. Donc on le voit bien, c'est un intérêt fort en France, mais pas que. Et aujourd'hui, Bitstack, en tant que leader européen, est en capacité de répondre à cette demande-là.
C'est une question de contexte, c'est une question de cours du Bitcoin ou c'est une question de produit qu'on met à la disposition des investisseurs qui fait que c'est de plus en plus adopté. Qu'est-ce qu'il les pousse, les gens, justement, à s'y intéresser de plus en
alors,
plus?
Alors, d'après moi, c'est le croisement des deux.
Ouais.
C'est-à-dire, d'un côté, effectivement, un contexte où, on le voit bien, le sujet le plus préoccupant des Français, c'est l'inflation, c'est le pouvoir d'achat. Les gens se posent de plus en plus de questions, je pense, pour de bonnes raisons. La monnaie est imprévisible, elle est inflationniste par rapport aux politiques des banques centrales. Donc, chaque nouvelle unité de monnaie créée dilue, finalement, les précédentes, donc l'épargne des Français, l'épargne des Européens. Et donc, il faut des nouvelles solutions pour protéger son épargne, pour financer les objectifs de vie. Et donc, de l'autre côté, il faut les produits qui permettent finalement au grand public d'accéder au Bitcoin, de pouvoir épargner en Bitcoin sans aucun effort. Et c'était la mission, et c'est la mission de Bitstack aujourd'hui. Donc, c'est le croisement de ces deux mondes-là qui nous permet aujourd'hui d'annoncer ces chiffres qui sont quand même énormes. 300 000 Français qui ont épargné plus de 300 millions d'euros en Bitcoin, une levée de fonds communautaire avec plus de 6 000 participants qui investissent plus de 3 millions d'euros. Donc voilà, c'est vraiment très, très heureux. Enfin, on est très heureux chez Bitstack de pouvoir annoncer tout ça.
Et un cours assez porteur. Là, on est à 70 000 dollars aujourd'hui. Cours qui a retrouvé des couleurs depuis la crise au Moyen-Orient, contrairement à d'autres actifs. Mais c'est vrai que c'est peut-être le bon cours, justement. Le timing est quand même assez favorable.
Ben, c'est intéressant parce que depuis le 28 février, le Bitcoin a augmenté de plus de 12%.
Oui.
Contrairement, du coup, à l'or, qui lui en a perdu, je crois, à peu près 16%. Le S&P 500, je pense que c'est à peu près 4%. Donc, en tout cas, il y a une vraie rotation entre la tendance du Bitcoin, qui, pour, je crois, la première fois de son histoire, durant un conflit armé, a pu surperformer les actifs traditionnels qui sont perçus comme valeur refuge.
Je pense que Nathalie va corriger dans un instant, visiblement.
A écrit sur le sujet, donc pourra plus préciser.
Oui.
Mais on a une rotation nette. On le voit aussi sur l'ETF Bitcoin, qui lui est en augmentation nette versus ouais. l'ETF or, qui est en à la baisse et qui a une diminution nette. Donc je pense que c'est intéressant. Et pour moi, ce que ça montre, c'est que potentiellement, les institutionnels votent avec leur argent et, a priori, en ce moment, ils votent plutôt sur le Bitcoin que sur l'or. Et donc, le Bitcoin pourrait enfin répondre à cette promesse de vraie valeur refuge dans un monde qui est de plus en plus incertain.
Un moment d'opportunité, disait hier Yves Chouvetti. Nathalie, déjà, vous vouliez corriger quelque chose?
Oui, non, c'est parce que c'est un sujet, effectivement, qui me tient à cœur en tant qu'académique, puisque en fait, ça faisait l'objet d'un des articles qu'on avait publié avec mon collègue Messaoud Chiban en 2025, pour montrer que, justement, Bitcoin était un sujet géopolitique
ouais.
et qu'effectivement, il prenait, en général, il montait quand il y avait des événements. Donc, on l'avait déjà montré sur l'Ukraine, sur des événements passés. Donc, nous, on était effectivement plutôt heureux de voir que ça se répétait, c'est-à-dire que le jour de la déclaration du conflit, eh bien, effectivement, le Bitcoin montait, l'or baissait, et qu'on a bien, on retrouve bien ces caractéristiques donc de protection contre les risques des États, en fait, ici, puisqu'en fait, ça permet en fait de la continuité de transfert de paiement sans que les États soient au milieu, donc sans qu'il y ait de dysfonctionnement possible. Et c'est bien l'avantage de Bitcoin. Donc, on était voilà, très heureux de voir notre théorie se confirmer. Et on a un prochain article qui va tester les mêmes choses en regardant l'Europe. Mais voilà, on est plutôt... on était très contents de voir que, effectivement, ça confirmait notre hypothèse de travail.
Ça se confirme et c'est effectivement un réflexe qui a été spécifiquement en Iran utilisé d'un côté par la population et de l'autre côté par le régime.
Exactement.
Des deux parties.
Oui, c'est
une réalité qui se vérifie
oui,
aussi oui. de ce côté. Elle a loué
oui,
Alexandre.
Pour ajouter un petit sujet, avant, dans les dîners en ville, quand on parlait de Bitcoin, s'il y avait toujours de la part de gens qui étaient un peu loin du sujet, un peu de retenue. Et là, un samedi dernier, j'ai eu la chance d'être invité et il y avait des gens qui étaient plus âgés que moi. Et qui m'ont tous marqué un intérêt sur Bitcoin et qui ont dit « Mais Louis, il faut vraiment que tu nous formes là-dessus. » Donc, on est passé d'un rejet à plutôt une forme d'adhésion chez toute classe confondue et toute classe d'âge. Et ça, pour moi, ce sont des signaux faibles que j'aime beaucoup remarquer.
Qu'est-ce qui fait, justement, alors on verra en avril, les chiffres de la DAN vont tomber au mois d'avril, oui. donc c'est dans quelques jours. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que cette si ce n'est cette adoption, en tout cas cet intérêt grandit chez ces classes d'âge-là.
Elles sont conscientes de deux choses. Elles sont conscientes de la baisse de certaines libertés. Elles sont conscientes aussi de la puissance de l'inflation. Et ce sont des classes plutôt éduquées. C'est-à-dire, ce sont des gens aujourd'hui qui ont entre, on va dire, 55 et 65 ans. Donc, qui ont eu plutôt une structuration mentale un peu différente des jeunes classes et qui ont conscience aujourd'hui, en voyant les déficits réguliers de l'État, que ces déficits correspondent à l'inflation. Et donc, s'il y a une inflation et j'ai une perte de ma monnaie de tous les jours, la mauvaise monnaie chasse la bonne, on dépense l'euro et il faut bien constituer une épargne en autre chose.
Le débat sur la dette, sur le budget, sur l'inflation, ça a fait quand même, ça a eu des répercussions hein, sur l'esprit des gens, effectivement, et sur leur comportement. Ça avance donc en Europe, ça avance encore plus vite aux États-Unis. Nathalie, vous vouliez revenir sur l'accès autorisé de Kraken à la Fed. Kraken qui a obtenu un accès direct au paiement de la réserve fédérale. Expliquez-nous déjà de quoi on parle, Nathalie.
Alors, jusqu'à maintenant, en fait, lorsqu'un utilisateur de Kraken faisait un paiement qui, à la fin, se terminait avec de la monnaie fiat, il fallait qu'il passe par une banque pour que ça soit enfin compensé vis-à-vis du client ultime. Aujourd'hui, en fait, Kraken va pouvoir effectivement directement rejoindre les autres membres qui ont un compte à la Fed pour que les compensations se fassent directement. Donc, il élimine un intermédiaire de ce point de vue-là, ce qui veut dire qu'effectivement, ça gagne sans doute en rapidité et sans aucun doute en frais. Donc, c'est effectivement une première, puisque
pour un acteur du secteur,
c'est une première. Alors, avec évidemment certains qui voient ces acteurs centralisés comme étant des quasi-banques dans le futur, se dire c'est mieux de les avoir sous notre coupole dès le début et se dire que ça permettra de gérer les risques. Et puis, avec ceux qui voient de l'autre côté ce qui peut se passer, c'est-à-dire que finalement, ils seront assimilés à d'autres établissements et qu'à ce titre-là, ils vont avoir un accès à la liquidité qui peut-être eh bien, engendrera des prises de risque supérieures. Donc on peut effectivement avoir quelques craintes quant aux répercussions de cette disposition. Parce que c'est l'accès à la Fed, ça veut dire aussi qu'en temps de... lorsqu'il y a des problèmes de liquidité, par exemple, sur la plateforme, eh bien Kraken pourrait... Pour le moment, ce n'est pas sur la table. C'est-à-dire que théoriquement,
oui, c'est limité,
accès.
Normalement.
Normalement, c'est limité. Mais il y a plein de choses qui étaient limitées, vous savez, sur le papier, et qui sont devenues... Je passe les Lehman Brothers, par exemple, eux, c'est pareil, ils avaient un accès à la Fed, mais ils n'avaient pas, normalement, ils n'étaient pas supposés avoir un apport de liquidité directe,
ouais.
Puisque c'était pas des banques commerciales. Donc, en général, ces acteurs qui ne sont pas directement dans le giron ne sont pas supposés avoir accès à ce qu'on appelle à la fenêtre d'escompte, au discount window, lorsqu'il y a des problèmes de tension de liquidité. Or, c'est bien ce qui s'est passé en 2008. Donc, c'est vrai que certains analystes voient cette nouveauté, et bien, ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça veut dire que là aussi, on est encore en train d'étendre la protection, en fait, finalement, à ces acteurs-là qui sont des acteurs crypto. Donc,
ils ont intérêt à être irréprochables si on ne veut pas que le système s'effondre,
oui,
ou la confiance.
Il y en a qui voient ça d'un mauvais œil, parce que ils se disent que les contagions vont peut-être du coup se passer d'un à l'autre. Et puis surtout, pour ceux qui aiment le secteur Bitcoin et tout ce que la blockchain peut promettre, c'est se dire que finalement, les vices du système traditionnel vont aussi atteindre ce secteur-là, puisque dès lors vous savez que vous avez accès, vous pouvez être aussi moins vigilant quant à votre responsabilité pour faire en sorte que vous soyez toujours stable. Et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire que c'est la grande question. C'est une question qu'on va voir comment on va se comporter. Mais vous savez, je vous avais évoqué le fait il y a quelques semaines que lorsque le Bitcoin avait fait sa chute rapide, certains lors de commissions au niveau du Trésor avaient évoqué le fait que est-ce qu'on pourrait pas aider certains du secteur parce que finalement le Bitcoin a vu son prix chuter. Donc vous voyez, très vite, on est toujours encore en train de se dire que finalement les établissements peuvent pas gérer tout seuls. Bah, normalement, si.
Oui. Enfin, j'allais dire, voilà. Ils n'ont pas besoin des acteurs crypto pour s'effondrer non plus.
Non plus, mais si les acteurs crypto commencent à prendre les mêmes mauvaises habitudes, à savoir que finalement, ils peuvent être récupérés, en tout cas, ils pourraient disposer de fonds parce qu'ils sont dans une situation un peu compliquée, c'est aussi, c'est pas une bonne nouvelle.
Ça multiplie les risques.
Voilà, parce que du coup, vous minorez la responsabilité de l'établissement. Mmh. Et en fait, c'était quand même ça, le projet de la blockchain et d'avoir Bitcoin, c'était de dire, on va avoir un système qui est plus responsable et discipliné.
Sécurisé.
Donc, c'est pour ça que cette nouvelle, effectivement, pour certains, est venue un peu interloqué en disant, mais pourquoi ils font ça? Alors, bon, on sait pourquoi ils ont fait pression, parce que c'est, pour eux, c'est quand même plus facile. Ils gagnent en efficacité. Ça, c'est
En attendant, ils gagnent en efficacité.
En efficacité, parce que du coup, ils n'ont plus d'intermédiaire. Ils ont un intermédiaire en moins. Néanmoins, ça veut dire, effectivement, ça pose des questions sur la relation entre la Fed et ces nouveaux établissements.
C'est un nouvel exemple d'assouplissement de la réglementation aux États-Unis avec le secteur crypto, promise par Donald Trump.
Oui, en tout cas, l'interconnexion, on voit bien que là, maintenant, là, il y a lui aussi, ils vont bientôt passer le fameux clarification du secteur qui est en route aussi. Donc là, on voit effectivement que ça s'accélère très, très fortement.
Il y a d'autres acteurs qui voudraient se passer vers la réserve fédérale, évidemment.
J'imagine. Ben, par exemple, Circle l'avait évoqué quand il avait été en difficulté avec, il avait clairement dit dans le cadre de la Silicon Valley Bank, puisqu'il avait une partie qui n'était pas grande, mais qui était un peu moins de 10% de ses réserves qui avaient été coincées auprès de la Silicon Valley Bank. Et donc, la Fed, pareil, ça avait été discuté. Ils avaient dit, bah non, c'est pas un acteur qu'on peut se lever. Néanmoins, ils avaient fait partie, ils avaient quand même récupéré leurs gains puisque le Trésor américain avait décidé de couvrir tout le monde. Mais à cette occasion, Circle avait été très clair en disant, bah nous, ça nous arrangerait d'avoir accès à ces fameux master accounts, les comptes auprès de la Fed. Et il s'en était pas caché, quitte à être un peu plus réglementé. Mais effectivement, lui, il avait toujours été très clair sur le fait que ça le dérangeait pas trop de se faire plus réglementer si c'était en contrepartie d'avoir un accès plus facile.
Louis Alexandre, ça vous évoque quoi ce rapprochement déjà entre cette réglementation qui évolue et puis ce rapprochement entre la finance tradie et le secteur crypto? Plus de risques, plus d'opportunités?
Inévitable. Personnellement, pas souhaitable, mais inévitable. Mmh. Voilà. Donc, je pense qu'il y a, certains ont pu dire, il peut y avoir des risques de contagion de l'industrie crypto vers l'industrie bancaire. S'il y a une frontière claire, je pense que c'est pas possible. C'est à partir du moment où on commence à avoir une interpénétration, ce qu'a dit Nathalie, oui, c'est une possibilité. Moi, en tout cas, je préfère que chacun chez soi et les moutons sont bien gardés.
Mais on voit que ça ne va pas se passer comme ça.
Non,
on voit que les secteurs sont en train d'entrer l'un vers l'autre et qu'on va avoir autant d'opportunités que de risques, justement. Oui. C'est-à-dire que ça va être aussi intéressant que ça pourrait être effectivement dangereux, à la limite.
Oui, mais là, de toute façon, le régulateur, il veut réguler le plus possible. Donc, à partir du moment où il peut avoir un contrôle plus large, ça l'intéresse. Bon, après, ça, c'est pas forcément la vie de tout le monde.
Oui, Alexandre.
Ah bah, nous, on le voit en premier plan chez Bitstack, avec la réglementation européenne qui, en plus, est quand même assez stricte. On en a parlé plusieurs
plus
fois sur ce plateau, effectivement.
Oui.
On les enchaîne avec la mise en conformité de MiCA. D'ailleurs, on approche les échéances pour les sociétés enregistrées PSAN qui doivent se mettre en conformité en tant que prestataire de services sur cryptoactifs sous le règlement MiCA. Bon, nous, agrément qu'on avait déjà obtenu en fin juin 2025. Mm-hmm. Donc ça nous concerne pas, mais ça concerne le secteur. On a eu la travel rule, on a DAC 8, on a les lois, enfin les directives sur les services de paiement, puisqu'on traite forcément en tant qu'acteur centralisé de la monnaie fiat pour encaisser des paiements, pour faire des virements. Donc oui, en fait, on n'est pas sur une industrie versus l'autre, on est à un croisement des deux industries, et je pense que c'est aussi le rôle d'acteurs comme nous, avec ces contraintes-là, de fluidifier l'expérience, en tout cas pour des consommateurs, pour pouvoir passer effectivement de l'un à l'autre.
On est quand même content de la retrouver, cette réglementation européenne, maintenant que tout le monde est en train de se mettre en conformité, ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a qui ne vont pas le faire et qui vont devoir trouver d'autres solutions. Mais en tout cas, une fois que ce sera fait, il y aura une sorte de crédibilité quand même des entreprises européennes sur ce secteur-là.
C'est le pari que des acteurs comme nous ont fait en s'installant en Europe, et notamment en France, c'est de dire que la réglementation, elle a quand même pour avantage d'apporter une certaine protection aux consommateurs, de créer une certaine confiance avec des acteurs comme Bitstack. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est le pari qu'on a fait en attaquant la réglementation la tête la première et en disant du coup à nos utilisateurs, à nos clients, nous sommes un établissement de confiance. Il y a un certain niveau de sécurité qui est mis en place lorsque vous accédez à l'application et lorsque vous mettez votre argent et épargnez en Bitcoin.
c'est toujours bon à entendre. On va complètement, je vais même pas faire de transition là-dessus. Hein,
Je me demandais laquelle.
Louis-Alexandre, non, je ne vais pas m'y risquer. On parle de criminalité, oui. Vous avez les vrais chiffres. C'est intéressant parce que vous revenez sur le Crypto Crime Report 2026. Oui. Premier constat, le montant des fonds qui transitent par des adresses illicites a explosé en 2025, mais, constat intéressant, le Bitcoin est de moins en moins utilisé dans l'industrie du crime.
Oui, en fait, le Bitcoin en 2020, c'était à peu près 70% des transactions sur les adresses illicites, d'après Chainalysis, qui publie tous les ans son Crypto Crime Report, que l'on a justement épluché pour vous, et maintenant, on en est à peu près à 8%. Ce qui veut dire que les sujets ont quand même foncièrement changé.
Ouais.
Bitcoin, dont on savait qu'il était extrêmement tracé, et a finalement un peu disparu des radars et utilisé vraiment à la marge. Et même tout ce qui est altcoin est plus utilisé que Bitcoin. Mais surtout, derrière, il y a les stablecoins qui sont devenus les nouveaux rails de paiement. Et ça explose tout. Mais ceci étant, il faut aller derrière pour comprendre tout ça. Pourquoi ? Parce que Iran, Venezuela, Russie... En fait, on a un certain nombre de sanctions internationales qui s'ajoutent les unes aux autres. Et ces acteurs doivent faire des paiements ensemble.
Trouver des solutions.
Et oui, puisque s'ils font des transactions en dollars, on leur pique leurs dollars, on gèle les adresses. Le Venezuela, on a tenté de lui geler ses adresses avec lesquelles il vendait du pétrole en USDT. Mais surtout, en fait, il faut aller dans le rapport pour se rendre compte que ceux dont j'ai parlé ici, fin 2024, qui était que la Russie allait trouver des solutions pour se débrouiller, c'était Poutine qui l'avait annoncé fin 2024, eh bien, un membre influent qui est Moldave est allé créer un jeton qui s'appelle le A7A5, j'en avais parlé, j'avais fait un article là-dessus. Le A7A5 est allé être créé en mars 2025, il a à peu près c'est 500 millions, hein, à peu près, le A7A5. Avec ça, ils ont réussi à faire 94 milliards de transactions, ouais. Pour dire que ça pulse. Et pourquoi ? Ben simplement parce que à partir du moment où les Chinois, les Indiens, les Iraniens veulent commercer avec les Russes, ben ils se débrouillent pour trouver d'autres solutions. Attention, pas de jugement moral, je ne suis pas pour l'utilisation criminelle des cryptos. Pourquoi ? Parce que ce qu'ont fait les cryptos, ce n'est pas, comment dire, de permettre des transactions frauduleuses, ils les ont rendues visibles. C'est surtout ça qui est important.
Ouais.
C'est avant, on les voyait pas toujours. Là, maintenant, on les voit. Et donc, le changement majeur, c'est que ce sont les États. C'est le premier sujet, c'est les États qui contournent les sanctions. Et le deuxième, c'est que vous trouvez sur étagère des manières, notamment en Chine, qui est devenue une leader mondiale, de choses que vous pouvez pluguer, vous achetez, et vous avez un système qui s'appelle le réseau de money laundering, de blanchiment automatisé. Ouais. Donc vous achetez un système tout simple, et c'est les Chinois qui sont leaders mondiaux là-dessus, et vous avez votre système qui vous permet d'aller blanchir de l'argent. Pour vous donner une idée, c'est des chiffres qui feraient rêver Alexandre, non pas sur la morale, mais sur les flux. Globalement, pour 1 milliard qui passe sur ce nouveau network, c'est 236 jours le record. C'est en 236 jours, on passe de 0 à 1 milliard échangé sur un plugin de blanchiment d'argent. Les Chinois sont leaders mondiaux, y compris là-dessus.
Oui, mais ça veut dire que la croissance des stablecoins se voit dans tout le système financier.
Oui.
Légal,
oui.
Et dans les mêmes proportions, dans ce système criminel, en fait, c'est ce que vous nous dites.
En fait, oui, c'est exactement ce que nous disait la cellule cyber en France. Hein, écoutez, les cryptos, elles ne sont pas utilisées plus, ou moins, elles sont utilisées autant.
Ouais.
Et donc, tout ce qu'on a vu dans le système financier classique, on est en train de le voir dans le système crypto. La seule différence, et là, une différence majeure, c'est que dans le système crypto, on va laisser une empreinte indélébile. Et cette empreinte indélébile, on va se retrouver avec deux forces en présence, ce qu'on appelle les white hat ou hackers éthiques, dont le but, ce sont des gens qui n'ont plus besoin de beaucoup de travailler, dont le but c'est simplement d'aller trouver qui étaient les voleurs, et puis les gendarmes aussi, qui font, les gendarmes, les policiers, même des réseaux américains, ainsi de suite, qui sont là aussi pour trouver qui sont les vrais fraudeurs. Et alors ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont une telle ingénierie que maintenant on se rend compte que les Américains sont allés piquer des cryptos à des Chinois sous principe qu'elles étaient criminelles, avec une atteinte, si vous voulez, au droit régalien chinois, en disant, les Chinois se sont plaints, en disant, mais pourquoi vous allez piquer les cryptos chez nos criminels à nous? En fait, c'est notre territoire, vous avez une violation du territoire. Donc c'est un jeu géopolitique.
Il n'y a pas de frontières en crypto.
Exactement.
Pas de chance.
Un commentaire, justement, sur ce qui vient d'être dit, Nathalie.
Ah ben, oui, je ne suis pas étonnée. Enfin, pour moi, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, il y a une nouvelle innovation technologique. Forcément, les gens, ils ne vont pas s'arrêter d'être...
au contraire.
Oui, ils ne vont pas se dire, oh non, je ne fais plus d'activités illicites parce qu'il y a une innovation.
Non. Oui, oui, non.
Ils vont
juste
explorer. Et effectivement, ce qu'on a toujours dit, enfin, pour ceux qui ont toujours aimé cette technologie et de voir la liberté qu'elle apporte, bah, malheureusement, elle apporte de la liberté pour le bien et pour le moins bien. Donc, le moins bien va continuer, mais dans l'univers crypto. Et effectivement, la créativité est sans borne. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut voir. C'est qu'en fait, il y a une créativité sans borne. Donc, il y aura aussi. Comment ?
Après, c'est 200
rapport,
milliards par rapport à des dizaines de milliers de milliards échangés.
Oui.
Il faut aussi voir la proportion.
Exactement. En fait, on me disait, même là, récemment, j'ai un élève qui a fait un exposé sur la partie illicite des paiements. Et bon, ça reste quand même mineur par rapport aux paiements qui ont toujours lieu en dollars, faut quand même le rappeler.
Oui, oui, absolument.
C'est quand même
c'est vrai.
C'est je crois qu'en tout les activités illicites, enfin on estime à peu près 15% de toutes les transactions qui transitent en termes officiels, alors que en crypto c'est 2%, voilà. Donc bon, on reste ça reste petit.
Et le Bitcoin encore plus petit qu'avant.
Et ce qui est intéressant,
Et
ça, c'est bien parce
relevé.
Que de savoir, enfin, de répéter que le Bitcoin, effectivement, c'est bien traçable et que c'est effectivement pas du tout pratique pour les activités illicites.
C'est toujours, effectivement, ça, c'est une très bonne donnée. Vous vouliez terminer, il nous reste 30 secondes, Louis-Alexandre, sur le Bitcoin Wealth Summit.
Et oui,
numéro 2.
Nous avons eu la chance que les participants de l'année dernière, donc gestion patrimoniale de Bitcoin, c'est un sommet qui est dédié à ça, au côté pratique. Ils nous ont demandé de refaire une nouvelle édition avec toujours pareil, beaucoup d'aborder tous les sujets juridiques, fiscaux, transmissions et ainsi de suite. Et puis un atelier où on pourra parler notamment des questions de sécurité, sans les caméras bien sûr, avec tout un tas de conseils pratiques, parce qu'on sait que aussi détenir du Bitcoin, ça peut être aussi des enjeux de sécurité, puisque c'est une souveraineté personnelle et nouvelles technologies, nouvelles habitudes.
Oui, les nouveaux, ça passe par l'hygiène justement numérique des investisseurs. Merci beaucoup. C'est le 20 novembre.
Le 20 novembre
à Bordeaux. Exactement. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission. Louis-Alexandre de Froissart, Nathalie Janson, Alexandre Roubaud. Je vous laisse entre les mains car je suis en retard de BFM Bourse. Passez une bonne journée sur BFM Business.
BFM Business, BFM Crypto, le club.